accepté le micro pour cette deuxième phase de la conférence de presse, les questions et les réponses. Vous connaissez la règle, éteignez vos téléphones ou mettez-les sous mode silencieux. Nous restons à Goma pour prendre deux questions et de préférence, nous ouvrons cette conférence de presse par l'intervention d'une dame, s'il vous plaît. Oui, Goma.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Patrick Félix Abeli du journal Le Grand Kivu. Prosper Félix Basse, au regard de ce qui se passe en République démocratique du Congo, en ce qui concerne la sécurité, la MONUSCO, vous déployez les efforts conjoints avec le FARDC pour décanter la situation, mais apparemment ça ne semble pas décoller. Est-ce qu'y a-t-il une autre solution que vous envisagez?
J'ai dit. Oui, vous avez fini?
Oui.
Merci pour votre question qui a trait justement à la situation sécuritaire que nous vivons ici en République démocratique du Congo. Je suis très heureux d'entendre que vous parlez d'une conjugaison d'efforts, donc d'une synergie d'action entre les FRDC et la MONUSCO pour sécuriser les populations civiles, mais aussi restaurer l'autorité de l'État. On peut aller même jusqu'à sécuriser ou en tout cas assurer l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas très d'accord avec vous quand vous dites que jusqu'à présent les choses ne semblent pas décoller. Je le répète tout le temps ici, à suffisance, il faudra comprendre que tous les jours, il y a des gens qui s'activent justement à restaurer l'autorité de l'État et à mieux sécuriser les populations civiles, qui sont aussi bien les FRDC que la MONUSCO, mais aussi, il ne faut pas non plus oublier l'apport significatif des populations civiles qui nous apportent un soutien vraiment à la limite nécessaire. Donc, les efforts se poursuivent sur le terrain. Vous conviendrez avec moi que beaucoup de groupes armés ont été neutralisés. Il y a des groupes armés, des groupes Maïmaï qui existaient, qui n'existent plus. Nous avons vu que la menace sécuritaire un peu plus au nord, dans le Grand Nord, ça veut dire au Béni, dans la région de Béni, nous avons vu que cette menace est aujourd'hui moins accentuée qu'avant, où nous avions l'ADF qui était en roue libre dans cette région du Rwenzori, mais qui a subi un taux d'attrition significatif du fait des opérations militaires récurrentes conduites par les FRDC et soutenues par la MONUSCO. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire, les efforts et les défis sont nombreux, mais nous pensons que, avec la conjugaison et l'apport de tout le monde, nous pourrons arriver à mieux sécuriser les populations. Donc les efforts se poursuivent. Je pense que il faut quand même reconnaître ce que les FRDC font sur le terrain, soutenu par la MONUSCO. Merci, nous restons à Goma pour prendre une deuxième question. Oui, une deuxième question rapidement à Goma.
Merci, je suis Victor Mouloabio de la radio Shekina FM Goma. Ma question est d'ordre sécuritaire et surtout adressée au capitaine Yassine Kassim. Il y a le 2 novembre, l'armée loyaliste en complicité avec la MONUSCO avait lancé une opération de ratissage sur le Mont Carmel à Boutembo. J'avais posé la question de savoir est-ce qu'il y a des opérations qui sont mises en marche pour que les rebelles qui occupaient la colline du Mont Carmel ne puissent pas y retourner. Et le capitaine avait rassuré qu'il y a des mécanismes qui sont mis en marche pour que les troupes ne puissent pas y retourner. Et voilà qu'aujourd'hui, même le matin, on nous a signalé que ces troupes sont retournées sur cette montagne et sur... et qui sont en train même de se vanter et la loyauté de cet espace. Alors, la MONUSCO, est-ce que ce n'est pas un échec ou ce n'est pas un échec plutôt ou ce n'est pas une négligence de la part de la MONUSCO, d'autant plus que ce groupe est déjà retourné sur cette colline. Merci.
Oui, merci. Avant que le capitaine Kassim ne puisse répondre, chers confrères, je vous demanderai d'être plus court dans vos questions afin de permettre à tout le monde de pouvoir poser des questions. Donc, mon capitaine, vous avez le micro pour répondre à la préoccupation de notre confrère à partir de Goma.
Oui, merci pour cette question. Alors, pour le moment, jusqu'à maintenant, on n'a pas une confirmation d'après le service de sécurité ou bien le service de renseignement que ces éléments négatifs ont occupé encore une fois cette position. Je pense si cette histoire est vraie, on aura à avoir un rapport ou bien un flash rapport jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à maintenant, mais pour le moment, on n'a pas cette information. Merci beaucoup.
Oui, merci mon capitaine. Je rebondirai sur la question fondamentale qui a été posée. Est-ce que ce n'est pas un échec de la MONUSCO? Je voudrais juste attirer l'attention de mon confrère qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. On a tendance à transférer les responsabilités régaliennes des forces de défense et de sécurité sur le dos de la MONUSCO. Nous sommes là en appui pour accompagner. Il faut louer les efforts que les forces de défense et de sécurité font pour sécuriser la zone. Vous parlez du Mont Carmel et éventuellement des Maïmaï corps du Christ qui ont fait leur apparition depuis un certain temps et qui occupaient le Mont Carmel. Je pense que vous avez tous entendu aussi le général Falsi Kabwe lors de son interview et l'ultimatum qui a été donné à ces gens-là pour qu'ils puissent déposer les armes. Évidemment, il est sûr et certain que les FRDC sont dans une dynamique de neutraliser tous les éléments qui portent illégalement des armes, et la MONUSCO est là pour appuyer leurs efforts dans le cadre de cette neutralisation. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Nous revenons tout de suite ici à Kinshasa pour prendre deux questions. Puisque Goma n'a pas pu nous donner une dame, je pense que je vais donner la parole à une dame ici. Voilà. Oui, merci.
Merci, c'est Elvira Pantou pour le compte de la RTL. Devant la commission de droits de l'homme du Congrès américain, Tom Perriello, l'envoyé spécial dans la région de Grand Lac, dit craindre le pire en RDC. Selon lui, la situation est très tendue. J'aimerais savoir que compte faire la MONUSCO afin de désamorcer les tensions avant cette date fatidique du 19 décembre, puisque la population vit déjà dans la peur, vu ce qui s'est déjà passé les 19 et le 20 septembre dernier. Merci.
Oui, merci. Je pense que l'appel de Monsieur Don Perriello n'est rien d'autre que l'expression de notre crainte à tous, ou en tout cas d'une préoccupation relative à cette tension qui prévaut aujourd'hui entre tous les acteurs politiques et que tout le monde aujourd'hui s'évertue à décrisper cette situation-là, notamment la CENCO, encore une fois, que je loue au passage pour les efforts qui sont actuellement menés dans le cadre de la réconciliation ou dans le cadre de la création d'un espace politique qui puisse permettre à tout le monde de s'exprimer de la manière la plus libre. Qu'est-ce que la MONUSCO préconise? Je pense que la MONUSCO n'a pas de solution toute faite qui soit sortie de nos laboratoires onusiens ou que nous avons concoctés en interne. Je pense que justement cette question interpelle tout le monde ici. Parce que ce n'est pas à la MONUSCO d'apporter la solution, mais la MONUSCO, dans le cadre de l'exécution, ou en tout cas de la mise en œuvre de son mandat tel que donné par la résolution 2277, nous nous activons tous les jours, notamment le représentant spécial, mais aussi les autres partenaires et amis du Congo, les Nations Unies. Vous avez vu récemment la dernière visite du Conseil de sécurité. Tous ces gens-là viennent tout simplement pour tirer, sonner l'alarme et interpeller les acteurs politiques congolais, parce qu'il s'agit d'eux, qu'ils tiennent en compte un seul intérêt, l'intérêt supérieur du peuple congolais, l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Donc voilà ce que je peux dire, madame, pour répondre à votre question. Je prends une deuxième question à Kinshasa, là à droite. Passez le micro.
Merci Félix Mlegwa pour Agence Sanadoulou. Actualité oblige. Par rapport aux tensions interethniques dans les Tanganyika, pas plus tard, hier, aujourd'hui, ce matin, on a appris qu'hier, il y a eu une fusillade préméditée entre encore les Pygmées et les Bantous. Et la semaine dernière, on a entendu parler d'une trentaine de morts et la MONUSCO est sur place. Florence, où en sommes-nous avec les conséquences humanitaires? Et Félix, durant ces deux semaines, où en sommes-nous avec les bilans? Merci.
Oui, donc, Florence, je vous laisse l'honneur. Les dames d'abord.
Oui, la dame qui va passer à Sylvestre Toumba d'Otcha, qui va pouvoir vous édifier sur cette, le cas de cette situation humanitaire dans le Tanganyika.
La situation engendrée par les tensions intercommunautaires s'est traduit sur le plan humanitaire de cette façon. 118 000 personnes déplacées entre juillet et octobre et pour prendre les chiffres les plus récents, quelques 10 000 personnes déplacées au mois de novembre. Ces personnes sont dans des besoins énormes en termes d'abri et besoin d'articles ménagers essentiels et en termes de santé. Il y a des réponses qui sont déjà amorcées, des réponses qui sont données, mais la situation, étant donné les tensions, pose aussi certaines restrictions d'accès, donc en termes de sécurité, qui ne permettent pas aux acteurs humanitaires d'apporter l'assistance partout où elle devrait être apportée. Voilà, si je peux résumer la situation humanitaire dans la zone.
Oui, merci Sylvestre pour tous ces éclairages. Donc, je reviens à mon confrère qui s'interrogeait un peu par rapport au bilan dans cette région-là. Je pense d'abord qu'il faudra retenir que la MONUSCO, les Nations Unies et je pense tout le monde condamne fermement cette violence qui a été observée dans le Tanganyika, particulièrement dans la région de Nyunzu, mais aussi tout récemment dans la région de Kabalo. Oui, cette violence, nous en payons aussi le prix, parce que je pense qu'il y a de cela peut-être une dizaine de jours. Je vous ai parlé ici de l'attaque qui a été perpétrée contre les casques bleus du contingent béninois, qui allait tout simplement fournir une escorte à une équipe pluridisciplinaire de la MONUSCO composée aussi bien des droits de l'homme, des affaires civiles, de l'information publique et d'autres sections pour essayer d'apporter leur contribution dans la résolution de ce conflit intercommunautaire qui dure dans cette région. Nous avons aussi dit que compte tenu de cette situation-là, il fallait que la MONUSCO prenne en compte certaines choses, notamment le déploiement d'une force dissuasive sur le terrain, et c'est ainsi que nous avons déployé une base opérationnelle temporaire aussi bien à Nyunzu qu'à Kabalo qui apporte beaucoup de sa contribution pour régler le problème. Au-delà de cela, certaines sections civiles aussi ont procédé à de nombreuses campagnes de sensibilisation avec les autorités locales, provinciales, mais aussi et les autorités coutumières. Et c'est ainsi que un mécanisme avait été mis en place, qui est le mécanisme des Baraza, qui a produit des résultats tangibles, notamment dans le Manono. Et vous avez bien vu qu'aujourd'hui, nous avions justement ce triangle-là qui nous fatiguait vers Manono, Mitouaba, etc. Mais aujourd'hui, dans le Manono, le calme est un peu revenu et nous avons observé qu'il y avait un basculement un peu des activités négatives de ces deux groupes qui ont créé des milices, c'est malheureux. Mais nous avons vu qu'il y avait ce basculement-là un peu plus au sud, dans le Nyunzu et dans le Kabalo. Tout se fait, des réunions se tiennent depuis un certain temps. Le bilan... Il est divers parce que il nous est très difficile d'accéder à tous ces coins-là et compte tenu de la situation, nous pouvons parler d'abord du bilan des casques bleus. Il y en a deux qui ont été blessés par flèche et nous avons aussi enregistré la semaine dernière au moins une quarantaine de tués dans deux affrontements, non seulement vers Niemba mais aussi un peu plus au sud. Et donc je pense que ceci nécessite aussi l'implication de tous. Parce que vous avez vu que les conflits communautaires dans le petit nord, dans le sud du territoire de Lubero, ont provoqué récemment encore une trentaine de morts. Je pense que c'est un problème. Il faut aller vers les causes profondes de ce problème intercommunautaire, interethnique, qui n'est pas un problème d'actualité et donc qui nécessite aussi la conjugaison des efforts, l'implication aussi bien au niveau local, au niveau provincial qu'au niveau national pour résoudre cette crise. Donc je repars à Goma, si je ne me trompe, pour prendre deux questions. Goma, vous avez deux questions.
Merci, je suis Vivien Zabarita pour les comptes de la radio-télévision belge francophone, RTBF. En fait, la question, c'est, ça peut peut-être revenir à Madame Marshall, qui nous présente les situations en général humanitaire. En fait, c'est par rapport au mandat du HACR, les hauts commissariats de la Suisse, les hauts commissariats, les HACR et commissariats aux...
Les réfugiés.
Voilà, merci. J'ai ma bise pour la définition. A les mandats, les HACR, a les mandats de protéger les populations déplacées. Alors, je voudrais revenir par rapport à l'incident de Luanga. N'observez-vous pas que normalement les HACR n'a pas formellement joué son rôle? Est-ce que aussi ces populations déplacées n'ont pas été peut-être exposées à cette chienlit de ces maïmaï? Pendant que vous savez bien que...
Oui, posez votre question s'il vous plaît. On vous demande
parmi
d'être
les
bref,
principes
s'il vous
les plus phares pour la charte humanitaire. Merci.
Oui, merci.
Oui, merci. Alors... Par rapport à Luanga, une précision. Était un site spontané de déplacement où les déplacés sont installés. Il ne faisait donc pas partie des sites officiels qui sont gérés par la Commission nationale pour les réfugiés, la CNR, qui sont sous financement soit du Haut Commissariat aux réfugiés, soit de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Voilà ce qu'on pouvait répondre à votre question.
Oui, donc merci. Nous restons à Goma pour une deuxième question avant de revenir à Kinshasa.
Ok, je suis Guylain Chimichula de la radio-télévision Graben Beni, ici à Goma. Et bien sûr, le monde va célébrer ce 1er décembre la journée de lutte contre le VIH-Sida. Un constat, c'est que depuis qu'on faisait des sensibilisations sur l'abstinence et autres sensibilisations sur le VIH-Sida, cette maladie continue toujours à se propager. Alors, quels sont les mécanismes que les Nations Unies, bien sûr, ont pris pour éradiquer cette maladie qui ne continue pas de se propager ici et là? Merci.
Merci. Florence.
Alors, les Nations Unies elles-mêmes ne prennent pas de mesures. Une fois encore, tout ce qui concerne ce pays revient en premier lieu au gouvernement de ce pays, en l'occurrence pour la lutte contre le VIH-Sida au ministère de la Santé publique. Les Nations Unies sont là pour soutenir les politiques qui sont mises en place. Évidemment, il y a parmi les objectifs de développement durable qui ont été adoptés l'année dernière, il y en a un qui est consacré à faire en sorte que l'épidémie puisse être éradiquée d'ici à 2030. Alors ici, en RDC, c'est le Fonds mondial, la Banque mondiale, les systèmes des Nations Unies qui apportent un soutien au gouvernement congolais dans la lutte contre le VIH. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des points positifs. Il existe une stratégie de lutte contre le VIH. Il faut savoir que le taux de prévalence en RDC est de 1,2%, ce qui est un taux qui est faible. Mais il faut savoir aussi que l'épidémie reste concentrée parmi les personnes, par exemple, qui ont la tuberculose, les prisonniers, les professionnels du sexe, etc. Donc, une fois encore, les Nations Unies viennent en soutien et notamment elles effectuent un plaidoyer très important pour que les droits des personnes vivant avec le VIH soient reconnus et qu'il n'y ait pas de discrimination contre les droits des personnes vivant avec le VIH. Et évidemment, aussi, tout est mis en œuvre pour faciliter l'accès au traitement antirétroviral.
Merci Florence. Retour ici à Kinshasa pour deux autres questions, puisque les collègues de Goma n'ont pas voulu poser la question à Monsieur Simone. J'espère que ceux de Kinshasa vont l'interpeller sur sa présentation. Donc je prends ici deux questions. Une dame. Oui. Vous n'avez pas le... Prenez le micro, madame.
Bonjour, c'est Mireille Mpoui, journaliste de la Consult Media Agency. Ma question porte sur M. porte-parole Félix. La MONUSCO dispose des drones non armés qui fournissent déjà des informations concernant l'ADF. Bon, je voulais savoir pourquoi elle n'utilise pas déjà des drones qui sont déjà armés. C'est ça ma question.
Oui, excellente question, mais je pense que vous savez bien que cette décision est une prérogative du Conseil de sécurité qui nous a doté de moyens additionnels pour nous permettre d'être plus effectifs dans la neutralisation des groupes armés. Évidemment, c'est même une première dans le système des Nations Unies qu'on puisse mettre en œuvre des engins volants, sans, des aéronefs sans pilote, pour permettre au commandant de la force d'avoir une liberté d'action qui lui permette, à partir des renseignements ou à partir des informations qui sont recueillies, collectées par ces aéronefs sans pilote, de prendre les décisions qui s'imposent sur le terrain. Maintenant, comme je le dis, pourquoi pas de drones armés? Ça c'est une bonne question, je pense que je n'ai pas la réponse ici et qui pourrait être référée au siège des Nations Unies pour en savoir un peu plus, mais je pense que nous avons mis en œuvre ces moyens-là et ces moyens nous sont d'une grande utilité pratiquement dans la traque contre les ADF mais aussi dans la traque contre les FRPI au sud du territoire de Rumou. Ça nous a été d'une grande importance, c'est ce qui nous a permis de mener des actions décisives qui ont permis de démanteler ou en tout cas de réduire de manière significative les exactions commises par ces groupes armés dans le passé. Donc je reste ici pour une deuxième question. Oui, au fond là-bas, donnez le micro. Soyez pas déçus, hein.
Merci, je suis le petit Bainde du journal Avenir. Monsieur Bass, le dialogue a échoué puisque la crise persiste. Quelle est la part de la responsabilité de la MONUSCO par rapport à cet échec?
Oui, merci. Je vois que vous suscitez une forme d'hilarité dans la salle parce que cette question est mal posée. Elle est très mal posée, je suis au regret de vous le dire, parce que d'abord, je vais peut-être rappeler un peu le contexte de ce dialogue-là, et rappeler aussi que la responsabilité du dialogue est une responsabilité congolaise. Le dialogue a été initié et a été convoqué par Monsieur le Président de la République, qui est la première institution de ce pays, pour rassembler tous les enfants du Congo autour de questions qui divisent. Et c'est ainsi que, comment on appelle ça, l'Union africaine a eu à dépêcher un facilitateur en la personne de Monsieur Edem Kodjo, qui a mené ici, pendant plus d'un mois, des activités qui ont permis au moins à la signature de cet accord le 18 octobre à la Cité de l'Union africaine. La MONUSCO n'est pas impliquée dans le dialogue. La MONUSCO a soutenu le facilitateur Edem Kodjo, lui a fourni toute l'assistance nécessaire en termes techniques, en termes logistiques, pour qu'il puisse mener à bien sa mission. Sur un autre plan, la MONUSCO, comme indiqué dans la résolution 2277, qui donne des instructions aux représentants spéciaux pour mener les bons offices, nous nous sommes aussi engagés dans cette voie, dans la même dynamique que la CENCO et d'autres partenaires de la RDC et d'autres amis de la RDC aussi, pour appeler tous les Congos à tous les Congolais à s'asseoir autour d'une table et de discuter. Et nous avions aussi à l'époque indiqué clairement que la voie royale était la voie du dialogue. Donc je pense que des conclusions ont été arrêtées par les Congolais eux-mêmes, pas par la MONUSCO, facilitées par Monsieur Edem Kodjo. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui nous avons vu la mise en œuvre graduelle, progressive des conclusions de cet accord qui a été signé à la Cité de l'Union africaine par, un, la nomination d'un Premier ministre, deux, vous avez bien vu qu'aujourd'hui, l'espace politique congolais est en ébullition justement dans le cadre de la formation de ce nouveau gouvernement, mais je ne pense pas que ce soit un échec, et cet échec ne peut pas être l'échec de la MONUSCO, et je pense tout simplement que jusqu'à aujourd'hui la CENCO et d'autres partenaires sont en train de poursuivre les actions, la MONUSCO aussi, les Nations Unies, tout le monde continue parce que c'est un processus que nous voulons plus inclusif, en demandant à ceux qui n'ont pas pris part au dialogue de prendre le train en marche parce que la porte reste ouverte. Donc voilà ce que je peux répondre. En attendant, je rends l'antenne à Radio Okapi, mais je prolonge cette conférence de presse pour encore une dizaine de minutes, en prenant pour prétexte notre invité qui est là-bas à Goma, que vous ignorez royalement d'ailleurs, ce n'est pas normal. Je repars à Goma pour prendre deux questions. Goma, vous avez deux questions. J'espère que vous interpellerez M. Simone.
C'est Kati pour le compte du journal Pekinga. Je vais tout droit poser ma question à Simone concernant un volontaire qui était de la MONUSCO qui répondait au nom de Ali Koulibaly. Car à un moment donné, la MONUSCO avait promis aux bénéficiaires que Koulibaly avait octroyé des dots, qu'ils sont en train de soutirer de l'argent à la salaire de Koulibaly juste pour remettre aux bénéficiaires. Je voulais juste poser la question à Simone, où vous en êtes avec ce dossier?
Oui, monsieur Simonet.
Pas sûr que ce soit le bon endroit où poser une telle question, parce que c'est une question administrative qui a à voir avec des affaires privées d'une personne. Donc je suis pas sûr que ce soit le bon endroit où poser la question, mais on peut tranquillement en discuter en huis clos, en parallèle, quoi, avec plaisir.
Oui, merci. Nous restons à Goma pour une deuxième question, très rapidement.
Daniel. Oui, Daniel Michombero pour Vision Shala FM. La question s'adresse à Monsieur Prosper Félix Bass. La dynamique de l'opposition demande à la MONUSCO de diriger la CENI. Monsieur Prosper, êtes-vous sûr d'assumer cette tâche? Sinon, quelle est votre réaction? Merci.
Oui, merci pour cette question. Très franchement, je pense que cette question est sans objet. Nous parlons d'une commission électorale nationale indépendante. Donc elle n'est pas dirigée par la MONUSCO, ça c'est la première chose. Et cette commission a pour responsabilité l'organisation des élections futures. Je pense réellement que cette question est sans objet. Franchement, je ne peux pas y répondre honnêtement. Je reviens ici à Kinshasa pour prendre deux autres questions.
Merci. Thierry Maille de l'Agence congolaise de presse. Madame Marshall a bien dit que le droit international humanitaire instruit que les déplacés doivent être protégés. Cela signifie qu'on doit prendre des dispositions avant pour protéger ceux qui sont dans le site. Même si le site est spontané, cela suppose que ceux qui sont chargés d'assurer la protection, prennent des dispositions pratiques, n'est-ce pas? Or, dans le cas d'espèce, les gens placés dans un site ont été massacrés. Ça signifie que ceux qui sont chargés de protéger ces gens n'ont pas fait leur tâche. De la même manière que ces gens de Luanda ont été tués, alors que le mandat de la MONUSCO est de protéger les populations civiles. Ça signifie que la MONUSCO n'a pas fait son travail de protéger les civils, et ceux qui sont chargés de protéger les personnes qui sont dans le site des déplacés n'ont pas fait leur travail. Donc vous avez une grande responsabilité. Est-ce que vous pensez que la population peut encore faire confiance à votre travail? Voilà ma question.
Oui, merci. Votre question est très pertinente, même si elle semble très dure à l'endroit de la MONUSCO, parce que vous parlez ceux qui sont chargés de protéger les populations et vous ne les nommez pas. C'est là d'abord le premier problème, parce que je suis sûr que vous savez bien de qui vous parlez, mais vous faites exprès de ne pas les nommer. La deuxième précision, c'est que il faudra tenir compte du nombre de camps de déplacés spontanés, rien que dans la région du Nord Kivu, pour comprendre l'ampleur de la tâche. Il est très facile de jeter l'opprobre sur l'autre, il est très facile de condamner, il est très facile même de juger, mais il serait bon aussi que vos contributions puissent être recueillies pour nous permettre de mieux faire notre travail, parce que les critiques, nous les acceptons, ça nous permet de revoir nos stratégies, ça nous permet de réaménager nos mécanismes, ça nous permet aussi, en toute humilité, de tenir compte des propositions qui sont faites pour le faire. Alors, Le cas de Luhanga, je pense que ma collègue Florence vous l'a dit au départ dans son propos liminaire, que c'est un camp spontané. Et un site spontané, excusez-moi, parce qu'on parle là de déplacés internes. Donc c'est un site spontané suite aux combats qui avaient déjà eu lieu dans cette région-là et qui ont permis aux gens de fuir et de venir s'installer à Luhanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont déployé à côté de ce camp-là, de ce site, une base. Mais il faudra aussi comprendre dans quelles circonstances cette attaque a eu lieu. Et vous savez très bien aussi que la MONUSCO, compte tenu de ce qui s'était passé il y a à peu près trois semaines, un mois, et qui avait provoqué ces déplacements de population, la MONUSCO avait pris la résolution d'implanter une base opérationnelle temporaire à un kilomètre de ce site de déplacés. Alors, comprenons un peu les circonstances. Les Maïmaï Mazembe ont lancé une attaque sur deux axes. Un premier groupe a engagé les FARDC à partir de leur position pour les fixer. L'autre groupe est allé directement dans le camp de déplacés et a commencé à procéder à des massacres. Je le dis encore une fois, il faut condamner justement cet acte horrible, ignoble. C'est un massacre qui n'a aucune raison d'être, puisque c'est des gens qui avaient fui leur environnement naturel pour venir se réfugier dans cette zone-là et qui étaient directement sous la protection des FARDC. Parce que, je vous dis encore une fois, il faut qu'on arrête de penser que la MONUSCO est la panacée. Il faut qu'on arrête de penser que la MONUSCO peut se substituer aux forces de défense et de sécurité congolaises. C'est même manquer de respect à ces mêmes forces de défense et de sécurité congolaises qui ont la mission régalienne de protéger les populations congolaises. Nous venons en appui, nous appuyons. Et c'est pour cela d'ailleurs que notre réaction a été prompte, parce que dès que nous avons entendu les coups de feu, nous avons le contingent indien qui s'est déployé immédiatement sur le terrain et qui a pris en compte la situation en engageant justement ces Maïmaï Mazembe et en appuyant un, sécurisant la zone, apportant les premiers secours aux blessés, évacuant les autres aussi. Comme je l'ai dit, c'est regrettable, et d'ailleurs je saisis cette occasion aussi pour demander un peu à toutes ces communautés-là de mettre un terme à ces tueries. Parce que c'est tous des Congolais. Pourquoi est-ce qu'il faudra dénier à l'un ou l'autre groupe tel droit? Donc, la MONUSCO ne se disculpe pas parce que d'une façon ou d'une autre, notre responsabilité est engagée, qu'elle soit physique ou morale, elle est engagée, et c'est à cet effet que nous avons fortement exprimé aussi nos profondes et sincères condoléances et que nous avons apporté les premiers, la première assistance nécessaire à ces gens-là. Donc voilà ce que je peux vous dire. Votre question est très pertinente, je le reconnais, mais aussi je pense que il faudra que qu'on puisse de manière sereine définir les responsabilités et aussi tenir compte de ce qui a été fait. Parce que si le détachement de la MONUSCO n'était pas intervenu, je pense que vous conviendrez avec moi que le massacre serait encore beaucoup plus grand. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, à la semaine prochaine.